Jacinthe Varel, notre chroniqueuse politique. Bon mardi matin.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien avec le beau ciel bleu. Ça fait du bien ce matin. Hein?
Faut en profiter. Faut en profiter. Les nuages vont s'installer là, à partir de demain et jusqu'à la fin de semaine. Donc, on profite de cette belle journée douce d'automne. Jacinthe, pas le choix de revenir sur toute cette saga de Haroun Bouazi de Québec solidaire. Les trois autres partis politiques à l'Assemblée nationale vont déposer une motion contre ses propos cet après-midi en chambre. Qu'est-ce que tu penses de la gestion de crise, de la situation et de la saga Haroun Bouazi par Québec solidaire?
C'est en train de s'étirer. On n'a pas terminé de voir cette histoire s'étirer. C'est dommage parce que ça portait de l'ombre sur la fin de semaine où est-ce qu'on a eu le vote de la co-porte-parole féminine de Québec solidaire qui a été un peu occultée là, par toute cette histoire d'Haroun Bouazi qui prend toute la place finalement et qui prend toute l'attention des militants, des co-porte-parole de Québec solidaire qui doivent gérer cette crise-là qui va se poursuivre aujourd'hui parce qu'avec cette motion déposée à la Assemblée nationale. On prévoit là, que ce soit Simon-Jeanin Barrette qui dépose cette motion de la Coalition Avenir Québec, mais qui sera aussi appuyé par le Parti libéral et le Parti québécois, donc tous les partis.
Ça risque de brasser.
Bien, ça va brasser certains, mais faut être conscient que ce que M. Bouazi a dit dans ses affirmations la semaine dernière, ça visait personne puis tout le monde en même
temps.
Hein? Ouais. Quand il dit qu'il est témoin à l'Assemblée nationale à tous les jours, c'est une attaque généralisée envers l'ensemble de ses collègues. On peut dire certains ont juste à porter le chapeau, pas porter le chapeau, mais il reste que quand on fait une attaque comme ça généralisée, ben on peut s'attendre à recevoir de la défensive ou de la contre-attaque de la part de l'ensemble des gens qu'on a visés en faisant une grosse généralisation comme il l'a fait et en utilisant les mots qu'il a utilisés, parce que là, c'est important aussi de s'appuyer sur les mots qu'il a utilisés. Et en ce sens-là, bien, c'est ce qui va être dénoncé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais on n'a pas fini d'en entendre parler parce que tant que Québec solidaire continue de protéger Haroun Bouazi, on continue de s'indigner de ça, avec raison d'ailleurs, parce qu'on fait beaucoup d'amalgame dans cette histoire-là, alors que quand il dit qu'il est témoin de tous les jours de comment l'autre est décrit comme étant menaçant l'autre étant une personne autochtone ou une personne noire, une personne d'origine maghrébine, c'est vraiment des propos très terriblement choquants, puis on ne peut pas associer ça à des propos de quand les partis politiques, par exemple, se penchent sur des questions d'immigration en général.
Non, c'est ça, exactement.
Ils se disent, il faut baisser nos seuils d'immigration ou qu'est-ce qu'on fait avec les enjeux d'immigration. Ça n'a rien à voir avec, finalement, stigmatiser l'autre pour son origine ou sa couleur de peau.
Emmanuel Latraverse écrit dans le Journal de Québec aujourd'hui, Gabriel Nadeau-Dubois devrait claquer la porte de Québec solidaire. Ça a attiré mon attention parce que je me dis, c'est vrai, Crime, qu'il mange une volée, lui, en tant que chef de Québec solidaire. Il voulait le rendre gouvernable. Les militants veulent pas, ils veulent rester dans leur anarchie. Là, dans ce dossier-là, on le voit bien, Gabriel Nadeau-Dubois et Ruba Gazal, qui, soit dit en passant, vient d'une minorité visible, sont pas du tout d'accord avec leurs collègues, mais doivent le camoufler, le protéger, parce que les militants d'extrême-gauche, eux autres, ils aiment ce que Bouazi a dit. Devrais-tu s'en aller, GND?
Bien, pour aller où puis pour faire quoi? Ouais. Il est pris, il est vraiment mal pris, puis c'est bien malheureux parce qu'effectivement, il essayait de recentrer son parti, il essayait de le rendre, de l'approcher d'une possibilité de gouverner un jour, puis pour ça, il faut s'éloigner des postures plus radicales de son parti. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire, mais c'est sûr que sa carrière politique va en prendre un coup en ce moment, là, parce que c'est la manière avec laquelle il va gérer tout ça qui va faire en sorte qu'il va soit rebondir ou soit avoir le dernier coup final, parce que ça fait quand même quelques difficultés que Gabriel Nadeau-Dubois rencontre, notamment quand Émilise Lessard-Terrien a claqué la porte, la co-porte-parole féminine, qui a pas resté longtemps. Même si là, il y a une co-porte-parole avec qui il s'entend bien.
Catherine Dorion, qui l'avait décrit aussi d'une façon d'homme très autoritaire. Là.
Absolument. Puis les sondages aussi qui ne remontent pas pour son parti. ça fait beaucoup de difficultés à rencontrer, beaucoup de vent de face. En même temps, c'est souvent ce qui arrive quand on est un politicien de carrière, parce que c'est, on peut dire que Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un politicien de carrière, il est là depuis longtemps. C'est souvent ce qui arrive à un moment donné. L'usure, on parle souvent d'usure du pouvoir d'un gouvernement en place, mais il y a aussi les années là, qui peuvent le rattraper. C'est difficile de se renouveler quand les années s'accumulent comme ça, puis on retient des éléments de crise qui ont ponctué sa trajectoire de carrière.
On verra comment ça va se développer dans les prochains jours, parce que tu l'as dit, on n'a pas fini d'en entendre parler à l'Assemblée nationale, mais le dossier Arun Boisy, c'est quoi les chances que ça fasse mal à Québec solidaire au point où il y a une débarque au prochain sondage, de comme perdre un 2, 3, 4, 5 points, déjà qu'on n'a pas beaucoup de points de pourcentage dans les sondages. C'est quoi les chances que ça ait un impact? Parce que je pense que les Québécois n'aiment pas ça, se faire traiter de raciste, là.
Non, absolument pas, mais les élections sont dans 2 ans, puis on a la mémoire courte. Alors, je ne sais pas à quel point ça va faire réellement mal. Ça peut faire mal dans les sondages à court terme, mais 2 ans, il reste encore beaucoup de temps pour qu'on l'eau coule sous les ponts, puis qu'on amène notre attention ailleurs sur d'autres enjeux, ou que notre attention, finalement, évolue sur ces enjeux-là, notamment d'immigration. Mais il reste que c'est un courant qui nous tire vers l'arrière, hein, parce que je me souviens, en 2015, 16, 17, 18, notamment la Coalition Avenir Québec, quand elle tentait de prendre le pouvoir pour la première fois, là, elle a été élue au gouvernement en 2018. Il y avait ce discours-là de réduire les seuils d'immigration et on tombait facilement dans cette polémique-là que si on voulait réduire les seuils d'immigration, on était une société intolérante, raciste, ou on était des gens intolérants ou racistes quand on appuyait ces idées-là. Là, il y a une espèce de retour en arrière qui semble vouloir persister avec une minorité, je dirais, probablement cette minorité là, qui appuie Arun Boisy.
La gauche.
Oui, c'est ça. Mais donc, cette minorité-là s'accroche à cette idée-là. On va voir si la société est assez forte pour continuer à avancer malgré cet élastique qui essaie de nous ramener vers l'arrière là, dans cette perception-là qui est complètement erronée. Là. Mais effectivement, les Québécois n'aiment pas se faire traiter de racistes. On sait qu'on est accueillant et on sait faire la distinction entre du rejet de l'autre à cause de son origine ou sa couleur de peau et le rejet d'une immigration massive ou le désir de vouloir mieux accueillir justement les sociétés, les étrangers qu'on accueille chez nous.
Ça va être définitivement à suivre cet après-midi à l'Assemblée nationale. Autre saga, celle de Northvolt, Jacinthe-Ève. La compagnie, on l'a appris, pourrait déclarer faillite aux États-Unis là, plus tard cette semaine. Je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais à un moment donné, ça va-tu être le temps de tirer à plug sur ce projet-là ici au Québec?
Ben oui, mais on gagne du temps dans ce dossier-là depuis le départ, depuis qu'on sait que Northvolt est en difficulté financière en Suède, qu'elle fermait une usine, qu'elle rationalisait ses coûts, qu'elle coupait des postes. On sait que ça s'en vient chez nous. On va avoir des répercussions de ça. Une entreprise ne peut pas être à ce point en difficulté et continuer de développer des nouveaux marchés puis construire une nouvelle usine quand elle enferme déjà puis elle coupe des postes. Donc oui, là, la rumeur circule qu'il y a des possibilités qu'on ait une faillite aux États-Unis. Il faut s'inquiéter si on n'était pas déjà inquiet, mais oui, il faut commencer à si ce n'est pas déjà fait, à avoir une stratégie de retrait ou prévoir justement ce retrait-là. Je fais une parenthèse là-dessus. Hein. On dit beaucoup que les usines de batterie puis tout le secteur des véhicules électriques va moins bien. Il y a moins de ventes de véhicules électriques. Il faut qu'on sache que la majorité des constructeurs de véhicules sont en recherche et développement de façon intensive pour développer une « solid state battery », une batterie solide. Et ça, là, il faut connaître ce bout-là de l'industrie du véhicule électrique pour comprendre à quel point c'est normal que les constructeurs se retirent, freinent, ralentissent leur projet de développement de véhicules électriques parce que en ce moment, on est à une croisée des chemins. Les batteries au lithium, telles qu'on les connaît, ne sont pas l'avenir dans les véhicules électriques. Ce sont des batteries qui sont performantes dans nos téléphones cellulaires, des batteries au lithium, dans nos brosses à dents électriques. Mais pour les véhicules électriques, ce n'est pas optimal. Il y a des risques d'inflammabilité. Ces batteries-là perdent en efficacité avec les cycles de charge-décharge. Ils diminuent d'efficacité et ils sont très sensibles aux variations variations de température, donc dans les climats froids. C'est ce qui fait que le véhicule qui devait avoir 400 km d'autonomie, en climat froid, finalement, il y en a 200 km d'autonomie, puis il ne faut pas trop mettre de chauffage dans notre voiture. Donc, ça ne répond pas à l'ensemble de nos besoins
c'est
comme consommateurs. C'est
non.
pas ça l'avenir. Et l'ensemble des constructeurs, la majorité travaille sur des batteries à état solide, qu'on appelle les solid state batteries. C'est ce qui veut dire qu'à place d'avoir le lithium qui est liquide dans ce qui est dans la batterie, devient solide. Il y a différentes formules qui sont testées actuellement et on est bien avancé. Certains constructeurs sont très avancés et ça nous permettrait d'avoir une autonomie de 1000 km pour 15 minutes de recharge. Là, si je vous parle de 1000 km avec 15 minutes de recharge, là, on va en vendre des véhicules.
Là, je vais aller m'en acheter un.
Exactement. Et c'est pour ça aussi que les constructeurs concentrent leurs intérêts et leurs ressources financières,
aussi.
Leurs investissements vers le développement de ça, parce qu'il y a une course aussi qui sortira la première voiture à état solide. En Chine, c'est déjà en marché, mais on connaît nos réserves face à l'accueil de véhicules chinois ici au Canada et aux États-Unis aussi. Donc, il y a d'autres constructeurs qui sont dans la même course. Mm-hmm. Et donc, il fallait connaître ça avant de se lancer avec Northvolt, parce que ça, je vous apprends rien de nouveau.
Non, non.
Tous ceux qui connaissent cette industrie-là.
Vous en avez déjà parlé.
Ben oui.
Ouais, puis là,
ça faisait partie de l'évolution. Là.
C'est
ben
ça.
Oui.
Puis là, ça m'amène justement à cette question-là. Puis là, je vais la mettre pour deux compagnies. T'sais, là, on a Northvolt, puis on a Lion Électrique, dans lequel on a investi énormément d'argent. L'action est rendue à 40 cents, elle ne vaut plus rien.
Ouais.
Là, sachant ces informations-là que tu nous donnes, que le gouvernement sait aussi, là, ça va nous prendre pour des valises si on dit Northvolt, on continue, puis Lion Électrique, on remet de l'argent dedans. Là. On ne peut pas faire ça là, en tant que gouvernement responsable.
Absolument. C'est soit qu'on est complètement naïf, puis qu'on est les seuls sur la planète à ne pas voir ce qui se passe dans cette industrie-là, ou soit qu'on nous prend pour des naïfs, puis qu'il y a des dirigeants qui savent très bien qu'on s'en va vers un mur de briques, un mur de béton même, je dirais. Ça va faire mal. Donc, il faut se réveiller collectivement. Il faut exiger de nos gouvernements, puis des gens qui servent le gouvernement, parce qu'il y a des fonctionnaires, il y a des agences gouvernementales d'investissement qui travaillent en amont et qui conseillent les gouvernements. Il faut s'assurer que tous ces gens-là sont lucides puis réalistes dans la lecture.
Ça fait-tu trop mal à un gouvernement d'avouer qu'on s'est trompé? T'sais, parce que si on n'investit plus dans Northvolt, si on se retire de Lion Électrique, on avoue qu'on s'est trompé.
Ouais.
Ça va-tu leur faire trop mal?
Oui.
Oui.
Oui, c'est pour ça qu'ils travaillent toujours des stratégies de communication, des belles stratégies de communication et de relations publiques pour nous expliquer qu'inquiétez-vous pas, on travaille, ils ont ça à cœur. Puis probablement qu'effectivement, ils travaillent très fort. C'est ça le pire, c'est que probablement qu'ils travaillent très fort pour essayer de faire perdurer cette histoire-là, essayer de trouver une voie de sortie ou essayer même de le garder à tout prix, ce projet-là, alors qu'on sait très bien que ça serait beaucoup plus sage et beaucoup moins coûteux pour les contribuables. De tout de suite
c'est fini.
Fermer ça.
Je lance une théorie. Pour ne pas faire l'avocat du diable, juste lancer une théorie. Puis corrigez-moi si je me trompe. Est-ce qu'on pourrait continuer le projet Northvolt et éventuellement, cette business-là, ça arrive sud de Montréal, travaille à faire et à développer et à construire des batteries solid state? Est-ce qu'on pourrait juste continuer puis changer la technologie éventuellement? Ça se fait-tu?
Bien, j'ai cherché, moi, cette... effectivement, c'est une bonne option de voir les choses, une bonne façon de voir les choses. Moi, j'ai questionné beaucoup de gens dans l'industrie, mais aussi au cabinet du ministre de l'économie, du temps où c'était Pierre Fitzgibbon qui était ministre de l'économie, parce que ce dossier-là, je le surveille depuis longtemps. Je suis très sceptique depuis très longtemps. Et puis, quand j'ai questionné, on m'a toujours dit, ben oui, mais on peut changer la ligne de production, effectivement. Okay. On peut construire l'usine puis faire des batteries solides, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la réponse qu'on donne à un journaliste qui gratte pas trop ou un chroniqueur qui gratte pas trop puis qui va
facile.
Se contenter de la réponse. Ah, bon, on peut toujours changer,
ben, parfait,
voyons donc,
facile.
Une fois que l'usine est construite. Mais si on questionne des chefs d'entreprise, des chefs d'usine, des gens qui en ont des grosses industries, là, ils vont vous dire, « Hey, ça coûte la totale changer une ligne de production.
Ben »
Ben oui, j'ai mes quatre murs, j'ai mon toit, puis ma bâtisse est chauffée puis elle est construite. Là. Mais une ligne de production, ça coûte pas 5$ à changer. Puis c'est pas vrai que c'est pas vrai que t'as besoin de le même type d'équipement dans la même ligne de production
puis
pour changer
espace,
de produit.
Etc.
Ben non, effectivement. Fait que là, c'est pas des des biscuits avec... On remplace la confiture aux fraises par du dulce de leche, voilà. Du dulce de leche, puis c'est la même ligne, ben, c'est le même petit biscuit, puis c'est la même ligne de production. C'est pas du tout ça, là.
Fait que la tactique, c'est-tu de bretter assez longtemps pour que la chaîne de montage qu'on va mettre dans cette usine-là soit une ligne de montage ben, pour la solid state?
Ça serait le meilleur des scénarios, le moins pire des scénarios, effectivement. Au moins, si on bâtit des murs puis qu'on s'organise pour avoir une chaîne de production directement avec la batterie solide, ouais, effectivement, ça serait la meilleure chose parce que ça coûte cher changer des lignes de production. Il y a des enjeux de robotisation, il y a des enjeux... on fabrique pas des biscuits, là.
Ben non, exactement. Hey, en terminant, je veux juste t'entendre sur Donald Trump qui a mentionné qu'il veut déclarer l'état d'urgence national pour réaliser son plan d'expulsion massive des immigrants illégaux. C'est-tu trop drastique en partant? Y a-tu d'autres pistes de solution ou tu te dis « Hey, ben non, gars, on est rendu là aux États-Unis? »
Ben, il a évoqué la possibilité de se rendre jusque-là, mais on connaît Donald Trump avec ses déclarations fracassantes. Il est toujours très caricatural, puis il utilise beaucoup d'hyperbole quand il parle, puis tout est magnifié, puis tout est grand, puis tout est gros, puis tout est grave, puis tout est...
Fait qu'il n'en est pas là encore, c'est ça que tu me dis.
Ça veut pas dire. Lui, ce qu'il dit, il annonce ses couleurs au même titre que quand il parle à Vladimir Poutine ou quand il parle à un dictateur de la Corée du Nord.
Moi, passer un coup de fil,
tu vas voir, moi, mon bouton rouge, il est plus gros que le sien, puis le mien, il fonctionne. Il utilise des hyperboles, il utilise des exagérations pour justement créer la crainte l'attente, finalement, que rien n'est à son épreuve. Et bien, ça permet, dans ce temps-là, c'est sa façon d'être stratégique dans ses
toujours dans ses communications. Toujours aller plus gros pour jouer plus petit.
Ben oui, tout à fait, pour dire il n'y a rien à mon épreuve. De toute façon, donc, on ne sait pas s'il va se rendre jusque-là. On sait que rien n'est à son épreuve. Il pourrait se rendre jusque-là. Mais une chose est sûre, c'est que je soupçonne qu'il va peut-être commencer son expulsion là, d'immigrants par... ça serait facile d'y aller avec toute la criminalité. Donc, dès qu'on arrête quelqu'un, plutôt que de commencer tout de suite des procédures judiciaires par rapport au délit que la personne est arrêtée, on pourrait tout de suite voir...
Extradé.
Oui, c'est ça. D'où son explication là, de dire on va construire des camps pour expulser les immigrants illégaux. Bien, ces camps-là, on peut facilement imaginer là, qu'on ne va pas commencer par les femmes de chambre dans les hôtels qui sont des immigrantes clandestines puis qui contribuent effectivement à l'économie américaine. Puis de toute façon, ce n'est pas elles qui mettent en danger. C'est pas elle qui représente une menace pour les Américains. Donc, on pourrait y aller par les gangs criminalisés et s'assurer que finalement, dès qu'il y a des arrestations, on regarde la légitimité, les papiers de ces gens-là. Puis, à la place de les envoyer dans le système judiciaire traditionnel, on les envoie dans le système, finalement, en parallèle qui va être construit par Donald Trump pour expulser les immigrants illégaux.
Elle est notre chroniqueuse politique. On apprécie énormément lorsqu'elle passe nous voir. Jacinthe Averelle, merci pour la belle jasette ce matin.
Merci, bonne journée.
À bientôt. Salut. Red.